Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Azincourt. Partout des papillons, insectes pris de court dans l'affreux tourbillon.
Là, les archers anglais réussirent à blesser et à tuer cette cavalerie française.
Des flèches taillées pour traverser les poumons des chevaux de concours.
D'un camp à l'autre, les sentinelles entendent presque le mot d'ordre chuchoter en secret aux postes ennemis.
Azincourt.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'était il y a 600 ans, le 25 octobre 1415, l'armée anglaise écrasait l'armée française à Azincourt. C'est l'une des batailles les plus célébrées de l'autre côté de la Manche. Pour en parler, l'historienne Valérie Toureil, bonsoir.
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 Vous êtes également maître de conférence à l'université de Cergy-Pontoise. Pourquoi cette bataille est célébrée et très connue en Angleterre, un petit peu moins chez nous? Voire méconnue.
J'ai une petite idée.
Oui, une petite idée, mais on veut l'entendre dans votre bouche.
Bien sûr. Il est assez évident que les Français ont cherché à cacher dans les replis de leur mémoire cette redoutable défaite. Pour les Anglais, au contraire, elle est emblématique. Elle a construit le roman national anglais. C'est l'acte d'héroïsme par excellence, celui qu'on va resservir régulièrement sur les champs de bataille jusqu'en 1944, au moment où Churchill appelle à la résistance et à la bravoure de ses hommes sous les bombardements allemands.
Azincourt qui galvanise, c'est ça, qui galvanise un pays. C'est même le point central d'une pièce de Shakespeare.
Oui.
Henri V.
En fait, très vite, là, s'est construite cette mythologie de la bataille. On vient d'évoquer justement la pérennité de cette histoire. Lorsque Londres a remporté l'organisation des Jeux Olympiques sur Paris, que joua-t-on à Trafalgar Square? Ben, ce qu'on appelle The Carol of Agincourt, donc c'est la chanson d'Azincourt qui a été composée peu de temps après la bataille.
Ouais, donc c'est vraiment dans l'imaginaire britannique. Alors moi, je pars de zéro, vraiment, je ne connais rien sur la bataille d'Azincourt. Déjà, c'est où, Azincourt?
Donc c'est dans l'Artois, aujourd'hui le Pas-de-Calais,
ouais.
À une cinquantaine de kilomètres du littoral, du Touquet. Mmh. Et donc...
On est dans quel contexte politique
Alors, c'est un contexte politique compliqué. J'aurais tendance à dire qu'il faut remonter quelques années auparavant.
Ouais.
Allons-y.
Dans un contexte, justement, qui mêle à la fois la folie et le crime. La folie, parce qu'en 1392, dans la forêt du Mans, Charles VI est frappé par sa première crise de folie. Et le crime, parce que...
On parle du roi de France. Hein.
Du roi de France, pardon. Et parce que en Angleterre, un jeune prince, Richard II, est évincé du trône. Hein, il est chassé par une branche collatérale, celle des Lancastres, qui enferme donc le jeune roi au fond d'une prison avant de l'empoisonner. Donc voilà comment se construit cette progression des Anglais sur le continent, hein, en éliminant, en tout cas. À Londres, celui qui tenait plutôt le parti de la paix. Richard II cherchait depuis des années un rapprochement avec la France. Et l'arrivée d'Henri IV, donc le père d'Henri V, marque l'arrivée au pouvoir du parti de la guerre.
Donc on a quoi? On a un roi fou côté français et un roi guerrier côté anglais, c'est ça?
Oui.
Mais on est, alors là, c'est mes vieux souvenirs de lycée. On est quoi? C'est la guerre de 100 ans par là, c'est ça?
Oui, excusez-moi, on aurait dû commencer par là. oui, bien sûr. En fait, on est dans la deuxième phase de la guerre de 100
D'accord,
ans.
D'accord, hein. Ok.
Elle a commencé, bon, pour faire simple, au milieu du XIVe siècle. Mmh. On a déjà, les Français ont essuyé déjà deux lourdes défaites, hein, Crécy en 1346 et puis Poitiers en 1356. Après cette première défaite, en plus, le roi de France en 1356 est fait prisonnier.
Alors quelques mois avant cette bataille d'Azincourt, le 25 qui débute le 25 octobre 1415, on est dans quoi? Dans une trêve encore que va rompre Henri V, le roi d'Angleterre?
Oui, j'évoquais tout à l'heure cette tentative de rapprochement et l'élimination de Richard II amène donc sur le trône le parti des bellicistes. Et Henri IV est vécu en fait comme un homme, enfin est perçu comme un homme brutal. Et son fils va être en quête de légitimité. Et cette légitimité, il va la chercher par la voie des armes. Et c'est pour ça qu'il va porter la guerre sur le continent. En fait, on est normalement en période de trêve, mais il est clair qu'il veut à nouveau porter le fer, donc de l'autre côté de la Manche.
Qu'est-ce qui le pousse à porter le fer, Henri V ?
Cette quête de légitimité politique, c'est-à-dire
Mais il y a un déclenchement, enfin je veux dire, donc il file en France.
En fait, il arrive sur le trône 2 ans auparavant, hein, en 1413, il arrive. C'est toujours le second qui succède qui a ce problème de légitimité. On pourrait parler du Capet pour remonter dans l'histoire. Donc, c'est à lui d'assumer cette continuité politique, et c'est comme ça, c'est par la guerre qu'il peut l'assurer.
Donc, il débarque sur les côtes françaises. Harfleur, c'est ça ?
En août 1415.
Ouais. Comment ça se passe ?
Eh bien, en fait, il va...
Des combats tout de suite ou
Oui, en fait, il débarque au chef de co. Harfleur, c'est pas très très loin. Il descend, en fait, sur ce port parce qu'il a besoin d'un autre ancrage sur le littoral normand. Il veut faire un autre Calais, Calais qu'il a... Enfin, que les Anglais occupent depuis 1347. Donc il leur faut un nouveau port et commence un siège d'à peu près un mois.
Autour de
d'Harfleur.
Et il y a quoi ? Il y a l'armée royale qui les rattrape, je sais pas.
On ne laisse pas faire.
Je vous ai dit, je partais de zéro. Moi.
Et si, malheureusement, dans ce contexte politique, s'ajoute une autre composante qui va accroître encore les difficultés du royaume, c'est la guerre civile.
En France.
Oui, j'en ai pas parlé. En fait,
un roi fou, une guerre civile, on était bien.
Parce que le roi est fou, justement. Ouais. En fait, les factions se disputent le contrôle du Conseil royal. Mmh. Pour faire simple, deux partis, le parti du duc d'Orléans et le parti du duc de Bourgogne. Et cette tension s'exacerbe jusqu'à l'assassinat de l'un d'entre eux, puisqu'en fait, en 1407, Louis d'Orléans est assassiné. Et là, la guerre civile, donc, prend toute son ampleur avec toutes les répercussions que cela peut avoir. Et la démobilisation aussi. Sans vouloir rentrer dans les détails, au moment de cet assassinat, on va voir les deux parties chercher du côté anglais des alliances. C'est vous dire à quel point le climat politique est troublé. C'est-à-dire que les Français vont chercher un appui de l'autre côté de la Manche.
C'est une paralysie du pouvoir français que vous nous décrivez d'une certaine façon.
Et lorsqu'il débarque, Henri V est au courant évidemment de toutes ces dissensions politiques. Bon, il sait que le champ est ouvert. Il n'y a aucune riposte, aucune réaction du côté du roi.
Le siège d'Harfleur et dans un instant, la bataille.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
C'était il y a 600 ans, à Azincourt, le 25 octobre 1415. La musique nous fait un peu peur, c'est normal. On va perdre cette bataille, nous, les Français. Bataille rentrée dans l'imaginaire des Anglais, que nous, on a complètement oublié, pour cause, parce qu'on s'est fait ratatiner. Les armées du roi de France l'ont perdu. Le drame d'Azincourt, histoire d'une étrange défaite. C'est le titre du livre de notre invité Valérie Toureille. Alors, on approche de la date de la bataille. Qu'est-ce qui se passe dans les jours, dans les semaines qui précède, il y a des messages entre les deux armées, entre les deux rois. Comment ça se passe ?
Effectivement, en fait, Henri V décide de prendre la voie de terre, de ne pas rembarquer, de rejoindre Calais. Il va traverser la Normandie qu'il convoite, et c'est à ce moment-là que les nobles vont se mobiliser et entamer donc une course pour rejoindre cette armée anglaise. Et on va donc se concerter, on se concerte beaucoup au Moyen-Âge. Donc à Rouen, on réunit autour du roi un conseil qui va décider de la bataille. Voilà.
Alors, juste pour bien comprendre, à Rouen, autour de quel roi ? Le roi de France ?
Charles VI.
D'accord, ok.
Je sais qu'il est parfois démuni, mais il est quand
même... Un peu zinzin, mais quand même, c'est le roi de France.
Il est quand même là.
Donc là, vous parlez de la réaction des Français.
On le tient en retrait de la bataille, justement, de peur qu'il soit à nouveau captif comme à Poitiers.
Que décident les Français alors, et Charles VI, face à cette invasion anglaise ?
Les Français portent trois défis au roi anglais, donc Henri V, parce qu'au Moyen-Âge, on ouvre la guerre très souvent en envoyant un défi.
Qu'est-ce que c'est un défi ? C'est une menace ?
En fait, c'est une lettre par laquelle on engage son adversaire à former une bataille.
Alors,
et
si tu es cap, c'est ça ? Cap ou pas cap,
si vous voulez.
C'est un peu ça ?
Mais en tout cas, c'est très formel. Donc voilà, on ne se jette pas dessus les uns sur les autres de manière anarchique. Non, tout ça est très, très réglé.
Donc, c'est-à-dire qu'on se donne rendez-vous, Charles VI et son armée donnent rendez-vous à Henri V et son armée ?
Tout à fait. Il lui propose la bataille. c'est ça en fait.
Elle est censée se passer à Azincourt ?
Non, à l'origine, elle n'est pas censée se passer à Azincourt, mais bon, Henri V refuse l'affrontement. Il sait évidemment que les Français sont beaucoup plus nombreux. Sans rentrer dans les détails, il lui a fallu parcourir de nombreux kilomètres. Et ces hommes sont affamés, épuisés, affaiblis. Et il négocie. Et puis finalement, acculé, il choisit un terrain.
Ah, c'est lui qui choisit le terrain.
C'est lui qui le choisit. D'accord. Par la force des choses. Mais en tout cas, il va s'installer sur un terrain un peu... Alors évidemment, quand on va sur le champ de bataille aujourd'hui, on a du mal à s'imaginer qu'il est un peu en hauteur, mais il est un tout petit peu en surplomb des Français.
D'accord. Alors comment sont disposées les deux armées ? Est-ce qu'on peut visualiser comment ça se passait, une bataille à 600 ans ?
Oui, alors, les récits sont variés et ne concordent pas toujours, mais les deux armées se font face à peine un kilomètre de distance. Elles vont passer toute la nuit, d'ailleurs, à se faire face. Donc, dans chaque camp, on entend les bruits du camp d'en face. Les Français festoient, parient déjà sur les futurs prisonniers, tandis que les Anglais se recueillent, prient, évidemment... appréhendent avec beaucoup d'inquiétude l'affrontement à venir.
Ils sont à peu près à égalité en termes de matériel et de quantité, de qualité des hommes.
C'est
deux armées qui se ressemblent, l'armée anglaise et l'armée française à Azincourt.
Non, pas du tout. L'armée française, pour faire simple, on va dire, a un caractère encore féodal, c'est-à-dire qu'elle est essentiellement composée d'hommes d'armes, donc de chevaliers. Alors que l'armée anglaise compte une grande majorité de piétons, d'hommes de pied, sont des archers, des hommes qui sont formés au maniement du grand arc depuis leur tendre enfance. Donc ce sont des armées très différentes, à la fois dans leur composition sociale, mais aussi par l'armement.
Mmh. Les chevaliers français, ils sont nombreux, ils sont combien ?
Alors là encore, il y a
les
sources diffèrent. Ouais. Il y a des débats sur les chiffres à égalité, 1-3. bon, je dirais que pour couper la poire en deux, les Français sont près d'être deux fois plus nombreux que les Anglais.
Alors Valérie Toureille, la bataille se lance. Les deux à Azincourt, les deux armées. Foncent l'une sur l'autre, c'est ça, le début de la bataille d'Azincourt, il y a 600 ans ?
Non, pas tout à fait. En fait, on va attendre longtemps. D'ailleurs, il a plu pendant toute la nuit. Certains sont restés montés sur leurs chevaux en attendant l'affrontement, avec la pluie qui leur tombe dessus. Et puis, au matin, la pluie s'arrête et on va attendre. Que le premier fasse le mouvement. Alors, on dit qu'en général, il vaut mieux éviter et laisser l'adversaire venir. Et finalement, autour de midi, 1h, c'est la première salve de flèches des Anglais. Et les Français vont bouger. Alors, pour rappeler quand même quelques éléments, les Anglais sont disposés en une grande ligne compacte et dense. Ils ont démonté, c'est-à-dire que même les hommes d'armes sont descendus de chevaux. Mmh. Et il y a surtout cette barrière d'archers. Mais ils ont aussi, pendant la nuit, placé des archers dans les deux bois qui séparent les deux armées. Donc ils ont caché des hommes là. Et les Français ordonnent la bataille, comme on dit, de manière très traditionnelle. Il y a l'avant-garde, le corps de bataille, l'arrière-garde et les deux ailes de cavalerie. Et donc les deux ailes de cavalerie vont charger. Et à ce moment-là, donc, c'est une pluie de flèches qui va s'abattre sur ces hommes. Les flèches, elles n'ont pas pour but de tuer les hommes en armes. Ils portent ce qu'on appelle l'armure de plate. Mais ce sont les chevaux, c'est le vacarme, le désordre, le chaos que cette pluie de flèches provoque.
Donc ça veut dire que c'est les Anglais qui prennent le dessus sur les Français à Azincourt.
Et en fait, c'est pas la première fois que les archers mettent en difficulté la cavalerie française. Mais bon, donc ils vont effectivement semer le chaos, les chevaux tombés avec les hommes, et puis la première ligne d'hommes à pied et armés montés. Donc, et heurter ce mur de cadavres et de chevaux.
On imagine une scène dantesque. Vous nous avez décrit le temps, la météo de la nuit qui a précédé. Il a plu pendant des heures et des heures. Donc, c'est quoi? C'est de la boue. Les hommes s'enfoncent. Les chevaux s'enfoncent dans la boue.
Tout à fait. On est dans le plateau d'Artois. Donc, on a procédé au labour. Et il a plu toute la nuit. Donc, imaginez ce que c'est d'avancer armé, avec une armure qui pèse à peu près 35 kilos, sans parler des armes, pour avancer dans la boue comme ça. Et il y a un chroniqueur qui dit, en fait, les Français ont perdu avant même de toucher les Anglais parce qu'ils avaient de la boue jusqu'aux genoux.
Elle va durer combien d'heures, combien de jours, cette bataille ?
Non, non, elle va durer quelques heures. On pense qu'elle est terminée vers 4-5 heures de l'après-midi, donc ce qui est déjà beaucoup.
Donc ça veut dire que c'est 4 heures de bataille seulement ?
Oui, oui.
Mais est-ce que les Français, malgré ces handicaps, ont failli atteindre Henri V, ont failli peut-être gagner cette bataille dans un coup?
Tout à fait. Il y a une volonté d'en découdre si forte qu'on voit effectivement, malgré tous ces obstacles, c'est-à-dire qu'ils sont très nombreux. Et ça aussi, c'est un handicap qui, finalement, va perturber l'avancée de cette armée. Mais il y a effectivement un groupe qui va s'avancer très très près d'Henri V, hein, le duc d'Alençon. On va frapper le roi d'Angleterre avec son épée. Il sait que s'il frappe le chef, tout va s'effondrer. Sauf que malheureusement, les hommes autour d'Henri V font bloc et on tue d'ailleurs ce pauvre duc d'Alençon qui brandit son gant, parce qu'en fait, on n'est pas tué quand on appartient à la haute noblesse. Hein, on est fait prisonnier, mais c'est trop tard. Hein, il est mis à mort sous les yeux d'Henri V.
Dans un instant, les conséquences de cette terrible défaite pour la France et les Français, les prisonniers, tiens, par exemple. À tout de suite dans la curiosité.
Vous écoutez RTL.
Première radio de France. RTL.
C'était la fin du Moyen-Âge. Les bâtisseurs de cathédrales avaient perdu la foi.
La curiosité est un vilain défaut.
1415. La guerre entre le roi d'Angleterre et le roi de France dure depuis 75 ans.
Jusqu'à 22h.
On se bat pendant 6 ou 7 ans, puis on signe une trêve. On s'arrête et puis on recommence.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Il y a 600 ans, à Azincourt, dans le Pas-de-Calais, le 25 octobre 1415, l'armée anglaise écrasait l'armée française en à peine 4 heures. Les soldats anglais se précipitent pour capturer les prisonniers. On va comprendre pourquoi. Dans un instant, nous sommes avec l'historienne Valérie Toureille qui publie Le drame d'Azincourt. C'est chez Albin Michel. On a d'ailleurs, Valérie, un auditeur qui nous écrit d'Ille-et-Vilaine. C'est Philippe. Il nous écrit souvent, cet auditeur. On l'apprécie
beaucoup.
Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Ces soldats anglais qui sautent sur les prisonniers français, c'est pourquoi ? Pour les revendre, pour se faire de l'argent, pour demander une rançon ?
Oui, il est de coutume, en tout cas à l'époque qui nous intéresse, de faire des prisonniers, parce qu'effectivement, la guerre c'est un investissement et donc on espère en tirer quelque chose. Mmh. Et chez les Anglais, tout ça est très réglé d'ailleurs. Hein. Il y a une partie des rançons des prisonniers qui est redistribuée au roi. Voilà. Donc des deux côtés de la Manche, on respecte cette règle-là. Sauf qu'au début de la bataille, ou avant la bataille, Henri V a dit qu'il ne ferait pas de prisonniers. Hein, pour éviter justement les désordres dans la mêlée et dans l'organisation du combat.
On peut être moins efficace si on essaye de faire un prisonnier, c'est ça ? Il faut mieux tuer.
Voilà. sauf qu'on a quand même fait des prisonniers.
Alors la plus belle prise, c'était qui ?
Ah, la plus belle prise, c'est Charles d'Orléans. Mais il s'est surtout passé quelque chose de terrible dans cette bataille qui lui donne cette tonalité si particulière et controversée d'ailleurs des deux côtés de la Manche. Parce qu'au milieu donc, de l'affrontement, on entend des huées dans le camp anglais et Henri V croit à un mouvement tournant, une prise à revers. En fait, c'est le sire d'Azincourt, un petit seigneur local avec des paysans armés qui viennent piller le camp anglais. On raconte d'ailleurs qu'on a volé l'une des couronnes de sacre que Henri V avait emporté avec lui. Et il donne cet ordre insensé au regard des codes de la guerre médiévale qui est de massacrer les prisonniers. Alors, il y a d'ailleurs un refus des hommes d'armes anglais qui s'y opposent. Donc il va désigner des archers, 200 archers, qui doivent mettre à mort donc les prisonniers qui sont réunis là. Donc on les égorge ou on brûle les granges dans lesquelles on a regroupé des blessés.
Et quelques chanceux, entre guillemets, comme Charles d'Orléans, qui est fait prisonnier. Sa rançon, elle est payée assez rapidement ?
Non, il faudra 25 ans pour qu'elle soit réunie. Bon, il y a des raisons politiques aussi. Mais c'est vrai que, logiquement, les plus nobles, ceux qui représentent aussi les rançons les plus importantes, et parce que quand même, on fait attention à ce que les princes soient épargnés de ce massacre, normalement, échappent à ce massacre. Il n'empêche quand même qu'on a des princes qui ont été non identifiés, qui ont été massacrés avec les autres.
Oui, Valérie Toureille, est-ce que les princes, le royaume de France, j'imagine, sort affaibli oui, de cette bataille.
Bien sûr. Donc une
que vous avez décrit, pour ceux qui nous rejoignent, une France qui était déjà difficile à gouverner, divisée, affaiblie, un roi fou, une guerre civile. Donc ça ne s'arrange pas après Azincourt.
Non, et ça ne va pas s'arranger encore. Ouais. Parce qu'en fait... Effectivement, il y a des chefs de lignage qui vont disparaître, des familles qui vont se recomposer, des fortunes qui vont se redistribuer. L'administration aussi connaît un mouvement de remplacement important. Mmh. Et pendant quelques temps, c'est vrai que la France est dans une phase d'atonie. Alors
ça veut dire quoi? Que le roi d'Angleterre, après cette bataille, il se sent quoi? Surpuissant, Henri V?
Il en profite, il a
des demandes. Qu'est-ce qu'il veut obtenir?
Disons qu'il a très vite.
Qu'est-ce qu'il a en droit d'obtenir?
Rien.
C'est la française qui parle.
Mais en fait, juste après ce rassemblement extraordinaire de toutes ces forces armées, les Français semblent retourner à leur querelle d'antan. Et donc, il a rembarqué, il va célébrer sa victoire à Londres. Hein. Il a maintenant toute la légitimité qu'il attendait. Il revient donc en 1417, à l'été. Et là, évidemment, commence cette conquête de la Normandie et devant lui, donc c'est une voie royale, sans jeu de mots, qui s'ouvre, hein, puisqu'il n'y a quasiment pas de résistance. La seule résistance qu'il va rencontrer, c'est celle des Normands. Mais l'armée française ne bouge pas.
Alors, il commence par conquérir quelle ville, quelle grande ville en Normandie, Henri V?
Il va prendre plusieurs villes. Hein. Il va prendre Lisieux. Je peux pas toutes les énoncer. Il va prendre Lisieux, Caen. Évidemment, la plus emblématique, c'est Rouen, hein, la capitale.
Mais il y aura une résistance à Rouen, quand même.
Il y a une résistance à Rouen, effectivement, hein, puisqu'il va commencer en juillet, elle va tomber en janvier. C'est assez cruel, hein, parce que donc il arrive juste avant qu'on ait rentré les moissons. La ville est bien fortifiée, elle est très riche, hein, c'est l'une des plus peuplées du royaume. Et Henri V fait construire un fossé tout autour de la ville.
Il veut même, ça c'est passionnant, je l'ai lu dans votre livre, Le drame d'Azincourt, histoire d'une étrange défaite, c'est aux éditions Albin Michel, Henri V, qui veut marier des veuves de la noblesse avec des Anglais.
Oui, dans un premier temps, on a l'impression...
C'est l'idéal pour s'installer.
Oui, bien sûr. Je dirais qu'à cette phase un peu brutale des premiers temps de la conquête de la Normandie, il comprend très vite qu'il doit trouver un terrain d'entente avec les Normands. Et ce mariage ou ces mariages incités, c'est une certaine manière de renouer des liens entre ces deux territoires.
J'ai tué vos maris, mais regardez, je vous apporte des hommes et ils sont anglais.
C'est pas faux.
Bon, et ça a marché, ça?
Pas toujours.
Ah, ça a quand même un
peu
marché.
On a eu quelques mariages, mais objectivement, et c'est un peu ce que je montre dans le livre, il y a une résistance normande assez farouche.
Alors justement, on a parlé de Rouen, juillet à janvier, c'est une période longue de combat et de résistance. Est-ce que cet exemple, est-ce que vous diriez ça, fait naître l'esprit de résistance en Normandie?
Alors c'est pas tellement dans les villes qu'on va voir naître cet esprit de résistance et cette résistance proprement dite. Hein, les villes et Rouen va s'accommoder d'ailleurs. Il y a eu un complot, mais enfin globalement cette résistance, elle s'organise dans les campagnes. Quand je dis qu'elle s'organise, c'est de manière un peu informelle. C'est important de rappeler que dès cette période, on n'attend pas 40. Il y a aussi des résistants contre une occupation étrangère. Et on a des hommes, aussi des femmes, hein, qui quittent tout, qui refusent de prêter serment d'obéissance au roi et perdent leurs biens et vont se réfugier dans le maquis, dans les forêts, parfois plusieurs années.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Après la bataille d'Azincourt, Henri V, roi d'Angleterre, tente de conquérir la France. Alors, ses méthodes sont redoutables, mais une partie de la population résiste courageusement. C'est cette dernière partie que l'on vous raconte avec Valérie Toureille, qui est historienne et qui publie Le drame d'Azincourt aux éditions Albin Michel.
Et vous croyez que dans ses oreillettes, il a la Carmina Burana?
Bien sûr.
Il écoute ça.
Dans son Walkman. Évidemment. Et en territoire anglais où nous sommes, comme les villes d'Harfleur ou de Rouen, il existe une résistance active. Ces résistants, on les appelle les brigands, c'est ça?
Oui. Parce qu'en fait, ils sont considérés comme des hors-la-loi. Ils s'opposent au traité de Troyes, qui a été signé en 1420.
Alors, qu'est-ce qu'ils proposent, ce traité de Troyes?
Alors, en fait, ils donnent déjà la main de la fille de Charles VI, le roi de France, à Henri V, le roi d'Angleterre, et leur héritier doit justement porter sur sa tête les deux couronnes. Donc on entre dans un système inédit, hein, qui est celui de la double monarchie.
Et donc l'héritier, c'est, il s'appelle ?
Il s'appellera Henri VI.
Henri VI, d'accord.
C'était jamais arrivé dans l'histoire des deux pays.
Et d'accord. En fait, ceux qui vont résister s'opposent donc légalement aux dispositions du traité. Et donc on a des gens du peuple qualifiés de brigands parce qu'ils sont justement désignés comme tels par les Anglais.
Mais quand on dit qu'ils font de la résistance, c'est-à-dire que c'est une armée.
Ben voilà, j'allais poser la même question.
Je sais bien, on pose toujours la même question.
Est-ce qu'ils sont bien organisés ?
Mais lequel de nous deux est en trop ? Zut ? Non, aucun des deux.
Alors, est-ce qu'ils sont bien organisés ?
En fait, les deux.
Vous allez prendre notre place, Valérie Touré.
Parce qu'en fait, on a une résistance complètement informelle de maquis. Hein, c'est-à-dire qu'on a des hommes comme ça qui vont s'en prendre à des hommes d'armes isolés. À tel point d'ailleurs que les Anglais sont obligés de déployer des escortes hein, lorsqu'ils traversent la Normandie. Et puis, on va avoir à trois moments des soulèvements qui donnent lieu à des exécutions qui sont redoutables. Hein. On a dans la vallée de la Dive en 1434 1200 exécutions
d'anglais par des brigands français, c'est ça?
De résistants normands. En 1436, on a un paysan qui s'appelle Jean Bauchier qui va organiser justement ce soulèvement de paysans armés et qui va se solder par 1000 morts encore. Hein. Donc c'est assez sanglant.
Et ces Anglais vont continuer de progresser. Cette résistance va continuer de se battre. Il va y avoir un paroxysme. Comment ça va s'apaiser?
En fait, ça s'apaisera jamais. Les Anglais ont du mal à comprendre que les Normands ne veulent pas passer sous la coupe anglaise. Ils ont oublié depuis très longtemps hein, l'Empire Plantagenet. Mais ça, c'est assez difficilement compréhensible dans l'esprit anglais. Et puis, dans le même temps, il faut pas oublier qu'il y a d'autres pôles de résistance hein, qui s'organisent dans le Royaume de France.
Quel pôle de résistance ?
Alors, on connaît bien le Mont-Saint-Michel, on connaît un petit peu moins Vaucouleurs sur la frontière lorraine. Ce qui est important de dire, c'est que le dauphin n'a jamais baissé les bras et qu'il contrôle encore un certain nombre d'hommes d'armes qui combattent pour lui.
Alors, le dauphin, c'est...
C'est l'héritier de Charles VI qui a été justement écarté du trône par le fameux traité de Troyes. Et c'est Jeanne d'Arc qui va le rétablir dans sa légitimité pleine et entière en 1429.
Alors ça veut dire que finalement ce combat et cette haine entre les Anglais et les Français ne va se terminer que bien après Azincourt, va se terminer avec la guerre de Cent Ans, la fin de la guerre des Cent Ans.
Oui, en fait il faudra encore deux décennies après la levée du siège d'Orléans, hein. C'était le verrou qu'il fallait pas faire sauter sur la Loire qui protégeait les possessions de Charles VII, du roi de France. Il faudra encore deux décennies, deux grandes batailles que cette fois-ci les Français vont remporter. D'abord parce que Charles VII, donc le roi de France, a réussi à mettre sur pied une véritable armée, une armée permanente. Il y a une grande ordonnance qui est promulguée à ce moment-là. Et puis, il va développer un outil redoutable qui est l'artillerie.
Alors moi, je suis un peu perdue parce que
moi aussi, je suis complètement perdue. Il y a combien de rois en France déjà? Voilà, il y a combien de rois en France?
C'est vrai que ce sont aussi les hasards de l'histoire. Entre-temps, Henri V est mort en 1422. Suivi quelques mois plus tard par Charles VI. Donc en fait, ils sont morts beaucoup trop tôt et l'héritier n'a qu'un an en 1422. Donc
il y aura une régence.
Il y a une régence, effectivement. Ouais. C'est le frère d'Henri V, le duc de Bedford, qui va l'assurer.
Qui sera donc roi d'Angleterre et de France en même temps, c'est ça ?
Non, il est régent.
Il est régent.
Il est régent en attendant que Henri V soit majeur.
Henri VI. On suit quand même, vous voyez.
Donc effectivement, cette conjoncture va favoriser la reconquête et la reprise en main du territoire par Charles VII.
Pourquoi vous avez consacré un livre, une histoire au drame d'Azincourt que vous appelez d'ailleurs une étrange défaite ?
Alors parce que au jour de la bataille, les Français avaient toutes les chances de remporter l'issue du combat. Et puis parce que au-delà de la défaite, on a vu naître en France une résistance. Il m'a semblé important de mettre l'accent sur ces éléments.
On avait toutes les chances de remporter cette bataille. À la fois, vous nous avez expliqué que c'était des chevaliers, donc ils étaient fragiles sur leurs chevaux, qu'il y avait les archers anglais en face qui étaient quand même bien plus efficaces. Quelles étaient nos chances finalement ? On était chez nous, on jouait à domicile.
C'est toujours très dangereux d'accepter une bataille rangée. Hein. Et les hommes du Moyen-Âge s'en méfient. D'ailleurs, il y en a assez peu, hein, pendant la guerre de 100 ans.
Dernier mot sur les conséquences de cette bataille pour les Anglais dans leur imaginaire. Vous nous avez expliqué que c'était les Anglais des archers, des hommes de pied, et qui ont battu des chevaliers, des nobles. Donc il y a une dimension sociale aussi dans cette victoire anglaise.
Oui, oui. Quand les hommes s'apprêtent à combattre hein, en ce jour du 25 octobre, c'est vrai que ces archers anglais n'ont rien à perdre, hein, sauf à gagner et à survivre. Alors que l'état d'esprit des Français est très différent. Il s'agit de prendre une revanche, mais d'aller capturer des prisonniers de prix. Donc il y a deux codes de valeurs qui s'opposent très clairement. Et les Anglais, lorsqu'ils massacrent aussi ces prisonniers, contreviennent au code traditionnel de la guerre médiévale.
Merci d'avoir rapporté à notre mémoire ce drame d'Azincourt, histoire d'une étrange défaite. C'est aux éditions Albin Michel. Merci à vous, Valérie Toureille.
Merci.
Merci beaucoup.
Vous écoutez RTL.